Ça bondit, ça tourne, ça virevolte, ça fait peur, ça fait rire, ça émerveille. Pour cette deuxième saison de L'Art de passer, nous partons à la rencontre de personnalités des arts du cirque qui œuvrent en Fédération Wallonie-Bruxelles. En toute simplicité, elles nous parlent de leurs pratiques et de leur parcours. Je m'appelle Quentin Lemenu, de la compagnie Les Vrais Majors. Je suis ravi de partager avec vous ces rencontres singulières. Bienvenue dans L'Art de passer, saison 2, et l'épisode commence maintenant. Pour cette rencontre, j'ai eu envie d'inviter Sarah Lemaire. Sarah, ça fait bientôt 20 ans qu'elle roule sa bosse dans les arts du cirque. J'avais pris pour nous des muffins aux myrtilles, aussi moelleux et confort que la loge où on s'est installé. Un abri intime, généreusement prêté par le Théâtre Marny, où Sarah a l'habitude de faire ses créations. Sarah, elle a cofondé avec Anne Nilsson la compagnie Petri Dish. Elle a participé à l'aventure de la Maison du Cirque jusqu'à sa fermeture en 2013 et elle donne des cours de dramaturgie et de production à l'École supérieure des arts du cirque, plus connue sous l'acronyme LESAC. Mais Sarah, sa particularité, c'est de faire du cirque sans faire du cirque. Elle fait du cirque, hein. Elle va vous l'expliquer mieux que moi.
Moi, je fais du cirque. Juste, je suis du côté de la salle.
Ah ouais, ouais, ouais.
Je ne suis pas sur le plateau. Et c'est un problème pour moi dans la conception du cirque en général, c'est que ce n'est pas accepté la différence entre les faiseurs et les performeurs. Mais c'est la même que partout, en fait.
Ah, bien sûr.
C'est un outil. Mais donc, je fais du cirque.
Et pourquoi
je fais pas, j'ai pas de discipline. Je ne suis pas sur le plateau, je ne joue pas de cirque. Mais ce que je crée, ça en est.
Et pourquoi on pense comme ça?
Ah bah, je ne sais pas.
Parce que c'est plus physique?
Peut-être, parce que c'est plus extraordinaire et que t'attendrais que je sois extraordinaire. Je peux passer ma jambe derrière ma tête, hein, si tu veux. Mais bon.
Tu fais du cirque. Alors, tu fais du cirque, mais du côté...
De l'ombre.
De l'ombre. Et est-ce que... tu sais, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce médium?
Complètement.
Ah ouais?
Ah oui, oui, ça, oui.
Tu peux nous le raconter?
Alors, d'abord, j'ai fait des études en secondaire. J'étais en art plastique, en art de l'espace, même, plutôt, à Saint-Luc.
À Bruxelles?
Non, à Liège. Ah oui, liégeoise, wow. Et à partir de là, j'ai cherché quelque chose qui pourrait être créatif, mais où je pourrais bouger tout le temps. Et du coup, je me suis retrouvée, ah oui, et faire des histoires. Parce que j'étais un faiseur d'histoires, vraiment. Et du coup, j'ai fait du cinéma. Je suis rentrée à l'IAD. Et je me suis fait chier. Oh, putain, c'était horrible. J'ai découvert quand... Donc, en réalisation. Hein. Ouais. C'était pas en image ou quoi, j'étais en réalisation. Et où en fait, j'avais l'impression... que le rôle, c'était d'être le tyran égocentrique, celui qui gueulait sur son assistant, qui lui-même gueulait sur l'autre, qui gueulait sur ça, qu'on n'arrêtait pas d'être hystérique, et qu'on faisait juste des... qu'on n'avait jamais le temps de rencontrer personne, enfin bref. Et surtout que les histoires, finalement, étaient un peu conditionnées par le réalisme qu'impose le cinéma. Parce qu'on filme des vraies images, à moins d'aller travailler au studio Ghibli, mais là c'était pas bon, il fallait faire de l'animation. Ou dans Star Wars, et là c'est encore plus chiant parce qu'en fait c'est des ordinateurs et des Blue Keys, quoi. Donc, et pendant que je faisais ces études et que je me traînais quand même un peu, je me disais bon, alors finalement je vais faire écrivain, bon, voilà, faiseur d'histoire, quoi. Mais quand même, c'était faiseur d'histoire avec des images. Enfin, il y avait ça aussi, il y avait ce côté plastique, c'est pour ça que j'ai commencé par là. Ah oui, si, et il y a aussi un. Oui, il y a un petit trauma familial, bien sûr. Mon père était comédien.
Ah.
C'est pour ça que j'aime bien me planquer dans le fond des loges. Moi, je peux dormir dans des pendrillons. J'ai fait ça, petite.
C'était... Ah oui, tu l'accompagnais.
Oui, oui, c'était standard. Et j'ai commencé, du coup, petite, parce qu'en fait, on se dit liégeoise, mais je suis verviétoise. Ouais, voilà. Ça aussi, par 9-3, quoi. Ouais. Et quand t'es verviétoise, normalement, on te met directement à la diction. Parce que sinon...
À l'académie.
T'as un accent... tu peux jamais rien faire. T'as beau être surdoué, t'as l'air pas teubé avec cet accent, c'est épouvantable. Et donc, du coup, diction. Et alors là, bah, tant qu'à faire d'être à l'académie avec un père qui était comédien, bah, il m'a fait faire de la déclamation, de l'art dramatique, du violon. Bref, tout pour pouvoir voilà, partir sur les tréteaux en étant plus ou moins utile, quoi. Et là, quand je jouais des trucs, les gens me regardaient en disant bah, « Bah, de toute façon, toi, c'est normal, c'est facile avec le père que t'as. »
Oh.
Et donc là, j'ai décidé que je ne serais pas acteur ni comédien, je serais chef.
Ah oui, ok.
D'où la réalisation. Voilà. Et donc, pas de plateau. Chef plateau. Après, j'ai vu que, en fait, il n'y avait rien à diriger du tout et que c'était plus de la psychologie du « s'il te plaît, attends, pars pas ». Mais au départ, c'est comme ça que c'est arrivé.
Et donc, Ali Adé, ça va pas, tu t'ennuies ?
Je m'ennuie un peu, mais bon, j'allais continuer, quoi. Mais là, je sais pas comment ça se fait. J'avoue que je sais plus très bien comment on s'est retrouvé là. Mais je me retrouve à voir la toute première mouture du spectacle secret de Johan Le Guilherme. Ça devait être quelque part en Alsace, un truc comme ça. Par hasard, avec des gens que je connaissais. Moi, je connaissais pas du tout ce truc. Et donc, on entre dans le chapiteau doudou, là. Et quand je vois ce qu'il fait, je fais « Ah ! » Les images que j'ai dans la tête, les petits dessins que je fais, c'est ça. C'est cet univers-là. Je tape dans les côtes du gars d'à côté, je fais « Ça, c'est quoi ?» Et il fait « Ah, mais ça, c'est du cirque !» Je fais « Non, c'est pas vrai. Du cirque, c'est des petits tigres auxquels on met des salopettes, voilà, et des clowns qui tombent en faisant « Hop, tomber !» Donc j'avais l'idée bouglionesque totale, voilà. Là, le gars à côté devient tout rouge, je fais « Ouh !» Apparemment, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Il commence à m'expliquer ce qu'on peut encore expliquer maintenant. Mais non, mais bien sûr que non, c'est pas ça. Depuis, ça a évolué. Oui, ok. Et donc, il a proposé de me renseigner. J'ai commencé à me renseigner. Et donc, effectivement, j'ai dit, je veux faire ça. Et à ce moment-là, ça se faisait au CNAC.
Oui, le CNAC, c'est les Centres Nationaux des Arts du Cirque.
Voilà, c'est ça. C'est France. L'équivalent de l'ESAC, mais français, quoi. Oui. Oh, des équivalents, parce qu'en France, il y en a deux ou trois qui sont reconnus diplômants. Tiens. Et donc, je vais voir là, et là, ils font, mais bien sûr, voilà, c'est ça qu'on fait. Et là, je vois qu'en fait, ils font que du plateau, quoi. Enfin, et je fais, ah non. Non, moi, je veux écrire pour ça. Et enfin, non, ça n'existe pas, ça.
On ne peut pas dérouler le parcours de Sarah sans passer par la case Extrême-Orient. C'est précisément là, dans cette culture, qu'elle va aller puiser pour peaufiner son travail sur le mouvement.
Quand je dis Extrême-Orient, c'est Chine-Japon.
Chine-Japon.
D'abord Chine, parce que du coup, je voulais aller voir sur place les théories de l'opéra de Pékin, qui donc n'est pas que de l'opéra comme nous on l'entend, hein, mais qui est justement une sorte de truc très complet, mais très codifié. Ça convoque tout en même temps, quoi. Le mouvement, le chant, l'image. Et donc, je voulais aller voir si cette codification pouvait lui faire dire quelque chose, et surtout dans une zone civilisationnelle qui n'est pas la même que la nôtre. Est-ce qu'il y a moyen de faire passer des trucs par le corps qui soient de l'ordre d'une compréhension générale ? Tu vois, les Indiens, ils font, pour dire oui, ils font ça.
Oui. Elle tourne la tête de droite à gauche, voilà, quoi, et pas de bas en haut.
Voilà, et puis parfois, ils font ça, et ça veut dire oui ou non, on n'en sait rien, bah, vas-y, chope-le. Mais il y a plein de mouvements, 90% des mouvements, malgré les différences, vont signifier la même chose. On va lire la même chose.
Et donc, ce grand voyage en Extrême-Orient,
oui,
plusieurs
coup,
années
après, non, pas plusieurs années, non.
Un an.
M'a fait passer au Japon aussi. Et là, j'ai rencontré des gens, et dont quelqu'un qui, ça a fait un truc un peu, je voulais faire fatigué, donc là, ou vieux, je sais plus. Et je cherche. Et j'ai beau chercher, j'ai jamais été vieille, donc ouais. Voilà, à ce moment-là. Bon, maintenant, ça serait plus facile. Et en fait, il est venu corriger. Il a corrigé des...
Ta posture ?
Ouais, des angles d'épaule, des angles de tête, des trucs comme ça. Et là, il m'a dit, là, tu te sens comment ? Vieille. La ligne d'abord, l'intérieur suivra.
Ah ouais.
Et je me suis dit, mais attends, comment est-ce qu'on peut avoir une conception qui est autant... Et tu vois, tu le vois aussi sur leurs estampes, tu vois, avec cette ligne noire.
Ouais.
En fait, ça vient de la langue, ça vient des idéogrammes. Un idéogramme fait un sens.
Oui.
Ça ne se lit pas. Nous, on déchiffre. rien n'a de sens en lui-même. C'est une fois que tu mets tous les sons ensemble, alors ce son évoque une image.
Oui, que le F, le R, le E, non.
Non.
Mais si tu mets, ça fait frère.
Voilà,
et alors
c'est
là,
ça. Ça n'a aucun rapport. C'est quelque part les sons mis ensemble et qui dégagent une signification. Pas du tout. Les idéogrammes, c'est pas ça. C'est tu vois l'image et elle a une signification. D'ailleurs, les Chinois et les Japonais partagent ces idéogrammes. Ils vont regarder la même chose. S'ils le lisent, je sais plus comment on dit forêt maintenant en chinois, mais admettons que c'est li, d'accord ? Eux vont lire li, les Japonais vont lire Kobayashi, mais dans leur tête, ça sera forêt.
Aux deux, quoi.
Ouais. Et donc, s'ils ne se comprennent pas en parlant, c'est pas grave. Prennent un stylo, ils écrivent, et là, on a la même chose. Bon, là, c'est parce qu'on ne peut pas, ça ne servira à rien, mais en plus, bah, les idéogrammes ont évolué au fur et à mesure des millénaires maintenant, mais il y en a quand même pas mal qui partent de pictographiques, donc qui sont quand même des images évocatrices que tu viens combiner comme ça, et ça donne parfois des combinaisons qui sont complètement aberrantes. C'est un mot qu'on n'a pas exactement en français, qu'on aura en portugais, qui est saudade.
Tu vois,
cette sorte de... Nous, on a mélancolie et on a nostalgie. Mélancolie, on utilisait ça aussi pour dire dépression, ce qui était quand même un petit peu dommage.
Qu'on utilise
donc
encore,
c'est un peu gris. Bah, maintenant, on dit dépression.
Ah.
Et du coup, mélancolie, c'est...
Dépression mélancolique.
Oui, voilà. Et on a nostalgie, mais avec une toute petite nuance d'avoir raté quelque chose. Alors qu'en fait, le mot dont je parle, c'est au milieu, c'est chouette, ça a disparu. Ça n'est plus, mais c'est chaud et orange, quoi. Bah, en chinois, on a un truc comme ça. Bah, en japonais aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils ont celui-là, s'ils l'ont pris. Mais en fait, c'est un idéogramme qui est composé de trois parties. La première partie, c'est la céréale.
Ouais.
La deuxième partie, c'est le feu. Et donc, feu et céréale, ça veut dire automne. Parce que c'est en automne qu'on brûlait le reste des céréales qu'on n'utilisait pas.
Ouais.
Et donc, tu as céréale, feu, donc t'as automne au-dessus, et en dessous, ils mettent le cœur.
Ah ouais, ok.
Avoir le cœur en automne.
Ah là là.
Mais sauf que, en plus, l'automne, ils te donnent déjà une couleur. Ils te disent que c'est orange. Ils disent que c'est pendant la fête des moissons et tout ça. Donc t'as ça. Et en fait, toute cette logique-là d'assemblage, d'image par image, ça a fait une sorte de...
Bouf.
Et je suis revenue ici et j'ai refait un master complet à l'Institut orientaliste de l'UCL.
Pour apprendre ces idéogrammes.
Ouais, donc en vrai, le diplôme le moins clownesque que j'ai est spécialiste du bassin Asie-Pacifique.
Ah ouais, pas mal. Et alors, on continue ce grand parcours qui est hyper varié et intéressant. Donc, tu finis ces études d'orientalisme à l'ULB ?
UCL.
UCL. Et alors après ?
Après Maison du Cirque.
Maison du Cirque.
Après, je me suis dit, allez, maintenant, on fait ce qu'on avait dit qu'on ferait au début, du cirque. Pas où est-ce qu'on commence, parce que je connaissais personne et que ces milieux-là, c'est que des réseaux. Mais en vrai, je connaissais des théâtreux, mais je ne connaissais pas de circassiens. Et bien là, la Maison du Cirque venait de faire sa transformation et cherchait quelqu'un, je ne sais plus quoi. Parce que...
La Maison du Cirque, tu peux rappeler ce que c'était ?
La Maison du Cirque, c'était une association qui s'occupait de tout le cirque sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. De sa promotion, essayer de le...
Valoriser, de
oui,
le mettre
voilà,
en avant.
Oui, voilà, c'est ça. On ne faisait pas de diffusion et de production en tant que telle. C'était vraiment... Avant, il y avait le... Comment ça s'appelait ? Il y avait l'équivalent pour la rue.
La FAR, la Fédération
oui,
de
voilà.
la rue.
Oui, voilà. Et bien en fait, c'était... Quelque part, c'est le pendant de la FAR, mais pour le cirque.
Ah oui, ok.
Voilà, parce qu'ils estimaient à ce moment-là, les gens qui avaient fait ça, que les spécificités du cirque étaient autres que celles uniquement de la rue. Parce qu'en rue, on peut faire du cirque, et c'est très spécifique à la rue. Mais le cirque, il y avait aussi du cirque en salle. Alors, c'est complètement un autre délire que du cirque en rue.
Oui.
C'est pas parce que c'est du cirque que c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose économiquement, créativement. On n'est pas sur le même ressort, quoi. Ouais. Voilà.
Donc ils avaient créé ça, et toi, tu t'es fait engager là-bas.
Ouais. Et voilà.
Et c'est parti. Et là, t'as découvert un peu plus le réseau et
oui.
t'as rencontré les gens.
Du coup, j'ai rencontré des gens. Je me rappelle plus quand j'ai commencé. Je crois que je faisais de la com.
Oui, moi, je t'ai connu là-bas.
Oui,
voilà. À l'époque où il y avait le festival
Hopla,
qui était co-organisé un peu par...
Voilà, par la ville de Bruxelles et par nous. Et du coup, on programmait aussi un peu. On avait commencé d'ailleurs avec de la salle et des trucs un peu bizarroïdes. Bah, ça évoluait en fonction des demandes aussi. Donc, je sais qu'il y a un moment où j'aidais sur les dossiers des gens qui devaient rendre Les demandes de sub.
Ah, les fameuses écritures de dossier pour les aides à la création.
Oui, parce qu'en fait, ça a fini par faire ça. Je sais qu'à ce moment-là, c'était un peu polémique, parce qu'on disait, bah oui, mais tu peux pas faire ça pour tout le monde. Si, en fait, si, ça oui. Par rapport au nombre de dossiers qui sont entrés, s'ils viennent, je pourrais, s'ils viennent tous un an, je pourrais le faire, je pense.
C'est marrant parce que tu fais encore ça. Tu donnes encore des formations pour écrire les dossiers.
Oui.
T'aimes bien ça?
Oui. Bah, je sais le faire, je crois.
Ouais.
Bon, les miens sont trop intello, mais ça, je le fais pas exprès. Il faut qu'effectivement, ils soient épurés par d'autres qui passent après, parce que sinon, c'est obscur. Mais oui, parce que ça... D'abord, je pense que c'est utile, parce qu'effectivement, quand on fait un projet avec ses copains en sortant de l'école, bah, d'abord, on l'essaye, et puis après, on peut en parler. Mais sauf qu'en fait, dans la vraie vie, dès que tu mets 4 sur un plateau, tu dois les... dès qu'ils montent sur le plateau, tu dois les payer.
Ouais.
Et bah là, ça veut dire que ton dossier, tu dois l'avoir écrit 2 ans avant, parce que tu dois avoir déjà les sous, les partenaires, les dates, les trucs. Et donc, bah, faut savoir le faire, en fait, ça. Et en même temps, moi, c'est ce qui structure mon idée. J'ai plein d'images qui flottent, plein de sensations qui partent dans tous les sens. Et à un moment donné, il faut que les planètes s'alignent. Et en fait, c'est en me penchant sur ce truc... où je finis par faire « Ah putain, c'était ça la logique que j'avais dans la tête. » Parce que sinon, je n'arrive pas à autodéterminer. Je ne pars pas d'un truc logique, ça part d'une sorte d'arbre. Et à un moment donné, il faut le rendre lisible. Quoi. Il faut le... Et ça, c'est le dossier qui m'aide à faire ça.
Donc c'est-à-dire que tu as réussi à intégrer l'écriture du dossier vraiment
dans le processus créatif.
Dans le processus créatif,
oui, mais c'est ça normalement. Quand on utilise cet outil de cette manière-là, c'est ça. Enfin, je pense en tout cas. Pour moi, oui, pour moi, c'est sûr.
Ouais. Et puis, il y a les écritures des premiers dossiers aussi.
Oui.
Les dossiers pour aller rencontrer les partenaires.
Oui.
Il faut déjà quand même verbaliser un moment.
Exactement.
Ce qu'on a envie de faire.
Ah voilà. Oui, parce qu'ils évoluent. Quand je dis un dossier, j'ai 60 versions pour le même projet. Il n'arrête jamais d'évoluer, évidemment. Ouais,
c'est quelque chose de vivant aussi.
Ah bah
comme
oui,
la...
oui, comme la création, oui.
Les créations, elles bougent beaucoup entre la première et puis l'exploitation du spectacle.
Non, alors ça, non, par contre.
C'est un moment...
À un moment, je lâche l'affaire.
Ah ouais.
Ouais, parce que sinon, on les bouge toujours. Et on finit par enlever des choses qu'on n'aime plus, mais simplement parce que nous, ça fait 3 ans qu'on les voit. Alors qu'en fait, c'était exactement ce truc-là qu'il fallait quand même laisser, parce que sinon, le rythme était tout pourri. Donc il y a un moment donné où je fais, ok, voilà, c'est bon. Mais je ne suis jamais contente, hein, jamais.
Jamais.
Jamais. Je n'ai jamais été contente d'un truc que j'ai vu. J'ai toujours raté, juste à côté. J'ai toujours été frustrée des résultats.
Ah ouais. Mm-mm. Pas un spectacle que tu as fait, tu dis... Oh. Oh, c'était chouette. En plus, tu le regardes dans un moment, le spectacle.
Mais moi, je ne le regarde pas un moment. Je le regarde 120 fois. Quoi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi.
C'est pour ça qu'à chaque fois, tu vois des...
Ouais, mais j'arrive rarement à l'exactitude de la sensation que je voulais arriver à dégager.
C'est quoi ton point de départ quand tu démarres une création ?
J'arrive jamais avec quelque chose d'écrit.
Ok.
J'arrive avec un concept comme ça, sur lequel d'ailleurs je suis plus pudique que maintenant.
Ouais.
Souvent, ils ne savent pas d'où ça vient. Et, non. Et le démarrage du cherchage de matériel, en fait, je viens avec des mots, des bouts de phrases. Je me dis que ça pourrait tourner autour de ça, que
ça pourrait évoquer.
Voilà. Je leur donne 100 minutes par personne. Pour préparer un truc. Et donc, ils sont obligés de trouver le premier truc qui leur vient dans la tête, quoi, parce qu'ils n'ont pas de prépa. On les jette dessus et on voit ce qui se passe. Et de là, je garde parfois 2 secondes, c'est un mouvement, et parfois, c'est tout un concept complet en disant « mais oui, c'est ça voilà. ».
Et en plus, au fur et à mesure des spectacles de Petri Dish, j'ai l'impression que la distribution, et souvent, il y a des personnes qui reviennent, il y a une certaine fidélité. C'est une troupe. Le mot est peut-être un peu ancien et tout ça, mais il y a en tout cas des personnalités qui reviennent.
Ouais, alors je sais pas si on dirait troupe, mais pareil, c'est moi, enfin, je crois qu'on est des grands solitaires tous, pour ça on s'entend pas mal quoi. Au début c'était un peu dur parce qu'on n'était pas très... Mais au fur et à mesure des années on a fait, non mais en fait justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'on sait se lâcher la grappe en fait.
Donc... Ah oui, tous les gens qui composent Petri Dish sont tous...
Ouais.
Un dénominateur commun, ça serait que c'est des grands solitaires.
Bah oui, ils aiment bien, voilà,
Respecter
ils sont
les
pas
buts de
que
chacun.
grégaires, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais à mon avis, c'est à peu près partout quand on se voit tout le temps. Oui, parce que c'est des humains que je trouve beaux. Et ce que j'aime bien en les utilisant, c'est un mauvais mot, mais c'est en travaillant avec eux et qu'ils soient sur le plateau, c'est, moi j'appelle ça la toute petite bille noire. C'est ce qui est enfermé à l'intérieur et qu'on a bien gardé condensé en dehors de tous les masques sociaux. Donc c'est ce secret même pour soi en fait. C'est qui on est. Des fois, c'est se surprendre. Enfin, et là, on est vraiment dans une sorte, on dirait pas la vérité, mais dans une sorte de vérité pour la personne qui est là. Et là, quand elle est comme ça, même si c'est une colère, même si c'est transcendant, quoi. C'est hyper beau quand ça lâche.
Pour toi, c'est très intime, les
À
créations que tu as
mort.
faites. Ouais.
Ah oui.
C'est vraiment des images très, très, très personnelles.
Ah oui, c'est des sensations qui sont extrêmement personnelles, oui. Effectivement, c'est caché,
Et
peut-être
impudique,
sous.
même. J'aurais l'impression que c'est
Non,
comme un.
justement, c'est en ça que ça peut-être ça se voit pas. Ça, l'impudeur, j'aime pas ça. Ça enlève la valeur du secret. Être impudique, c'est ne pas accorder de valeur à ce qu'on peut offrir comme secret, et donc dans le lien à l'autre. C'est ça qu'on offre en fait, c'est le fait de faire, toi, cette petite partie-là, tu vas être au courant. Et du coup, ça crée un lien extrêmement particulier, c'est une affinité particulière, même si on ne se voit pas tout le temps, même si on se voit que tout. C'est, quelque part, il détient une partie de ce qui.
Du
Si,
secret.
ouais, et s'il met une clé dedans, ça s'effondre, quoi. Donc, il pourrait l'utiliser, donc c'est une sorte de confiance absolue, ça, on te l'a mis là. Voilà. Et si c'est juste impudique et qu'on le donne à tout le monde, bah, en fait, on n'a rien donné du tout. On n'a pas donné cette affinité particulière.
Et ta création, ce serait ça, un spectacle, ce serait, tiens, de donner ça au public, de donner cette petite clé sur toi. Mais un peu
Oui, mais du coup caché
caché.
dans un truc qui est, je pense, quand même ultra esthétisant. Ça, je crois que on est d'accord.
Oui, des images que j'ai vues, c'est très esthétique. Il y a un
Oui,
truc un peu baroque sur
c'est ça.
certains.
Oui.
C'est léché, c'est précis,
Oui.
c'est contrôlé quand même
À
au
mort.
niveau de l'image,
Ah
quoi.
oui. Ah oui, ça oui. Oui, je suis capable de rester une nuit entière à coller les feuilles d'or sur cette mallette là dans Thalweg là. J'ai collé les feuilles d'or moi-même. Il n'était pas question qu'on les colle en faisant. Alors qu'en vrai, t'es au troisième rang, tu le vois pas.
Ah ouais. Et de répéter aussi un mouvement, un geste
Ouais.
pendant des heures et des heures pour trouver.
Oui, et ça arrive à la toute fin. Ce qu'ils n'ont pas toujours compris avec moi, c'est que souvent les circassiens veulent commencer par le mouvement. Moi, j'y arrive pas, ça. Moi, d'abord, je veux commencer par un truc rough, et quand ils regardent, ils font, mais c'est rien, attends. En fait, là, on a mis la structure, et maintenant, on va venir faire parler les mouvements. Du coup, j'arrive avec le mouvement à la fin de la structure, et on va venir l'affiner de plus en plus, jusqu'à ce que les gens entrent. Mais c'est la dernière partie, c'est on va venir lui donner le goût.
À la fin de notre échange, Sarah ouvre ses carnets de création, plonge dans ses notes griffonnées et nous partage au hasard quelques passages.
Allez hop. Trop de gêne, ça casse la dynamique. Scène comme ça doit être plus péchue. Oula. Faire des essais avec des objets qui marchent bien, comme la valise, la bouteille, quelqu'un d'autre.
La page d'à côté.
Ça, c'était vraiment. C'est Nilda solo proposition. D'abord le cadran. Point d'interrogation. Pas le combiné. Pas les saccades du bassin. Pas logique. Tu raccroches pour rien. Deuxième partie. Si c'est pour écouter le téléphone, il nous faut d'abord le premier geste avant. Pas de transition, à qui tu parles, trop caricatural, le téléphone qui se découvre quand on l'enlève, des trucs. Voilà. C'est vraiment des prises au vol, souvent même c'est écrit alors que je regarde. Donc j'ai écrit, mais en regardant ce qui se passe pour pas rater des trucs, parce que parfois c'est tout petit, donc
C'est vrai.
du coup, quand c'est comme ça, on sait rien lire. Et j'ai remarqué que la seule chose que je conservais vraiment, c'était ça. Ça, ça, ils font chier parce qu'il y en a
Ouais.
des dizaines et des dizaines. Ça prend la totalité d'une petite bibliothèque alors que j'ai plus de place pour les livres. Mais eux, je ne saurais jamais m'en débarrasser.
Ah
Et
ouais.
le pire, c'est que je les réutilise d'une fois à l'autre aussi.
Tu retournes dedans?
Ouais, je retourne dedans parce qu'il y a des trucs qui naissent lors de la création d'un spectacle. qui ne sont pas utilisées dans ce spectacle, mais qui avaient donné parfois un point de départ pour le suivant, quoi.
C'est ainsi que se termine cet épisode de L'Art de passer. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Vous pouvez retrouver et partager tous les épisodes sur le site lartdepasser.be ou via toutes les plateformes d'écoute. Il m'aurait été impossible de fabriquer cela tout seul. Leslie Doumerx a assuré la prise de son et la réalisation. Au montage et mixage, Arthur Lacombe. Et les musiques sont de Mathieu Tonnant. L'Art de passer est une production de la compagnie des Vrais Majors, coproduit par Latitude 50, Pôle des Arts du Cirque et de la Rue, avec le soutien financier d'Air Libre, Fédération des Arts de la Rue, des Arts du Cirque et des Arts Forains, et le soutien technique de Radio Panique et Radio Campus. Sincères remerciements à toutes et à tous. À bientôt pour la suite.
Il y a une musique hein, qui arrive un peu.
Eh bien oui, c'est une loge.
C'est une loge, il y a des salles de répétition.
Il y a des répétitions un peu partout. J'adore ça. C'est les endroits où je peux m'endormir le mieux. C'est quand il y a des bruits de fond qui viennent d'ailleurs parce que les gens s'agitent autour.
Ah ouais.
Ça, j'adore. M'endormir dans l'agitation, je trouve ça génial.
Ça, c'est vraiment un truc de l'enfance, quoi.
Voilà. Oui, je pense.
De te balader avec ton père alors qu'il faut dormir quelque part.
Oui, exactement. Et du coup, ça me rassure encore maintenant.
Ah ben ouais.
Je ne sais pas dormir dans la campagne, par exemple.
Dans le silence.
Ah non, je suis tétanisée dans le silence.